vous avez, excusez-moi, donc vous avez tous un document avec dans une pochette, hein, donc il y a quatre pages, donc il y a une présentation donc, de l'ABI avec un plan, la prière, voilà, une petite partie sur la prière du moine, les offices, la chronologie du monastère, hein, donc qui vient du site internet du monastère, donc l'histoire, hein, donc les 13-14 siècles d'histoire de ces lieux, et vous avez aussi donc des extraits de textes introductifs donc à la vie monastique, d'une part donc les apophthegmes des pères du désert, et d'autre part des extraits de la règle de Saint-Benoît. Donc voilà pour les documents. Vous avez aussi donc le plan de l'intervention détaillée avec des contenus que vous a confectionné le père de Sandrès. Voilà. Et puis vous avez aussi sa biographie. Vous avez tout ça? Bon. Alors les documents sont passés, donc ça veut dire que tout est là. Voilà. Donc, faites-les revenir par là d'une part ou d'autre, comme ça on est sûr que tout le monde a ce qu'il faut. Oui. Voilà. Voilà, donc on est heureux de démarrer avec vous donc, cette journée, qui est une journée un peu particulière. Donc nous sommes toute la journée donc, dans le monastère bénédictin de Saint-André. Vous aurez deux interventions, donc la première par le père David Sandrès, donc je vais le présenter tout de suite, et la deuxième, donc cet après-midi, par le père, le révérend père Massin, donc qui est le père abbé émérite de l'abbaye, donc qui n'est plus père abbé aujourd'hui, qui a laissé sa charge donc à un homme plus jeune. Donc il y aura une visite guidée donc par le père, donc comme l'a rappelé le père hôtelier. Par un frère du monastère, donc après le déjeuner. Nous proposerons donc d'assister après cette intervention à un office qui est l'office de sexte, donc l'office de milieu du jour. Nous déjeunerons ensemble. Vous pourrez assister à un autre office donc, qui est de nonne, hein, qui commence l'après-midi. Donc sexte, nonne, en fait, ça fait référence en fait, au découpage du temps au Moyen-Âge, hein, où en fait on découpait le temps, pas selon des heures comme aujourd'hui. Et voilà, donc Père David Sandrès, voilà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être venu avec nous comme ça jusqu'à Saint-André. Vous êtes professeur de théologie dogmatique à la Faculté Notre-Dame et à l'Institut supérieur des sciences religieuses, donc au Collège des Bernardins. Vous êtes aussi vicaire à la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas, donc qui est une paroisse à côté du Luxembourg. Vous êtes aussi aumônier de collège et au collège et au lycée. Voilà, vous avez suivi une formation en philosophie. Vous avez une expérience monastique, vous aussi, puisque vous avez passé 15 ans dans les fraternités monastiques de Jérusalem. Donc pour ceux qui connaissent Saint-Gervais à Paris, à côté de l'hôtel de ville, donc, c'est le lieu, c'est le cœur de la communauté qui est maintenant présente partout dans le monde. Avec l'intuition, vous me corrigez, hein, mais avec l'intuition donc, d'installer une vie monastique en plein centre urbain.
Tout à fait, oui.
Voilà. Et vous avez donc été à Paris, mais vous avez aussi été à Rome et à Florence. En tant que moine de ces fraternités. Vous avez fait vos études à l'Institut catholique de Paris et à la Grégorienne, donc, c'est-à-dire à l'Université de théologie romaine à Rome. Voilà, et votre thèse donc, qui porte sur l'expérience de Dieu chez Karl Rahner donc, est éditée aux éditions Paroles et Silences. Voilà, je vous laisse la suite. Je vous remercie beaucoup.
L'office de sexe est à quelle heure?
C'est dans les papiers que j'ai donnés, c'est la page 2, je vais vous le dire,
12h15.
C'est précisément à 12h45.
12h45, d'accord, donc on a un peu de marge.
Voilà,
très bien.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous. La proposition qui m'a été faite, merci beaucoup, nouveau mot d'accueil, Cyril de Monclin. La proposition qui m'a été faite m'a paru très excitante. À un double titre, au titre de la vocation, de la mission de l'IHEMR, que je trouve tout à fait intrigante, intéressante, stimulante, et puis au titre du cahier des charges qui m'a été communiqué par Cyril de Monclin, un cahier des charges très riche, très lourd, et du coup ça relève presque du défi, essayer de vous présenter en un quart d'heure la question dogmatique en régime catholique, en théologie catholique. J'espère honorer pas trop mal ce défi sans partir au pas de course, au pas de charge. Alors, je compte sur vous pour me faire des signes de détresse si je vais trop vite ou si je commence à jargonner, à utiliser des mots abscons et opaques. Alors, en guise d'introduction, je voudrais donner une sorte d'avertissement qui est le suivant. En général, c'est même pas en général, c'est quasiment systématique, faire entrer un auditoire en théologie dogmatique, c'est presque à coup sûr lui proposer un déplacement. Voilà. Il y a une certaine distance entre l'idée a priori que l'on se fait du dogme et ce qu'il est pour les théologiens, en particulier les théologiens catholiques. Et ce déplacement est à vivre même pour les catholiques. En partie, ce n'est pas la seule raison, mais en partie parce que cette question touche à la question du rapport à l'autorité. Et que cette question est une question complexe pour tout un chacun. Elle l'est à titre individuel, elle l'est aussi collectivement. Et même chez les catholiques, il peut y avoir à ce sujet des attentes à déplacer. Elles peuvent être, il y en a essentiellement deux, on en trouve qui recherchent à travers les dogmes une collection de vérités indiscutables qui formerait un système. Le dogme n'est pas cela. Voilà. Il n'y a pas de système dogmatique ou une systématique du dogme. Voilà. D'autres catholiques rejettent le rapport à l'autorité, quelle qu'elle soit, et revendique une foi personnelle, une foi intime, qui échappe mal au subjectivisme. Voilà. Donc il y a un double écueil ici. Et éviter ce double écueil, c'est choisir une ligne de crête, et c'est donc vivre le déplacement que j'évoquais en commençant. Alors, oui, le dogme a affaire avec la question de l'autorité. Il est défini par ce que nous appelons le magistère. Le magistère, c'est le mot par lequel nous désignons l'Église en tant qu'elle est enseignante, en tant qu'elle a reçu de Dieu la mission d'enseigner. Maintenant, toujours en guise d'introduction, un deuxième petit préambule concerne le mot lui-même. Alors, dogma est un mot grec qui a été repris tel quel dans le latin et qui sert, on va dire, deux significations principales qui en ont enfanté une troisième. La première signification, c'est opinion. Un dogme est une opinion, à commencer par désigner une opinion. Et la deuxième signification est celle de la décision juridique. Et le mélange de ces deux significations en a enfanté une troisième, et dogme a fini par désigner une doctrine philosophique, ou en tout cas les principes d'une doctrine philosophique. Et on voit bien comment les deux premiers sens ont pu enfanter ce troisième. Il s'agit d'une opinion au sujet de laquelle une école philosophique a pris une décision, a décidé que cette opinion était fondamentale. Il faut attendre le Concile Vatican I, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, hein, vous avez les dates qui s'affichent. Il faut attendre le Concile Vatican I pour que le mot dogme reçoive une définition et un usage précis. Et il le reçoit au Concile Vatican I d'une manière paradoxale, puisque le mot lui-même n'est pas cité, mais la réalité. Cette polysémie du mot dogme a pour conséquence que dans des écrits anciens, tirés des pères de l'Église par exemple, vous pouvez trouver le mot dogme appliqué aux doctrines réputées hérétiques. Il est question des dogmes hérétiques. Donc le mot dogme n'a pas toujours désigné une vérité à croire. Il a pu désigner, dans une littérature ancienne, une opinion fausse, réputée erronée. Okay ? Donc, il faut faire attention à la manière dont le terme est utilisé, par exemple dans le corpus patristique. Je vous ai reproduit à l'écran, est-ce que c'est assez grand ? Oui. Le texte du Concile Vatican I qui donne définition du mot dogme sans encore une fois citer le terme. On doit croire deux fois divine et catholique, il s'agit d'un ablatif, hein, fide divina et catholica, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition. Ici avec tradition nous rencontrons un concept très important sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Et que l'Église propose à croire, donc ici vous avez la mission d'enseignement, hein, que l'Église propose à le magistère, que l'Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Ici, vous avez l'énoncé des modalités selon lesquelles l'Église propose à croire une vérité divinement révélée. Le jugement solennel, c'est par exemple un concile ou bien une définition solennelle faite par un pape. Par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception. Et le magistère ordinaire et universel, c'est la prédication consensuelle, commune, courante. Le Concile Vatican II est revenu, lui aussi, sur la réalité du dogme, principalement dans deux documents. Je crois que je vous les ai mis les intitulés. Donc, Lumen Gentium, c'est un document qui date de 1964. Et également dans Dei Verbum, c'est un document qui date de 1965. Nous allons lire ces deux passages. D'abord, Lumen Gentium, en son paragraphe 25. Quand le pontife romain ou le corps des évêques en union avec lui porte une définition, ils le font conformément à la révélation elle-même, à laquelle tous doivent se tenir et se conformer. Et qui, sous forme écrite ou par voie de tradition, de nouveau ce concept fondamental, est transmise intégralement grâce à la succession légitime des évêques et avant tout par le soin du pontife romain lui-même, et qui est religieusement conservée et fidèlement exposée dans l'Église sous l'action prévenante de l'esprit de vérité qui l'éclaire. Le pontife romain et les évêques, en raison de leur charge et de la gravité de la chose, s'applique avec un empressement zélé par des moyens appropriés à scruter soigneusement cette révélation et à l'énoncer adéquatement, mais ils ne reçoivent aucune nouvelle révélation publique comme faisant partie du dépôt divin de la foi. Alors ça c'est très important, cela signifie que définir un dogme ne revient pas à apporter du nouveau à la révélation. Ça signifie qu'une définition dogmatique prétend apporter un approfondissement de la compréhension que nous avons de la révélation. Le déploiement dogmatique est compris comme le déploiement de la révélation elle-même, mais en aucun cas comme l'ajout de quelque chose de neuf à cette révélation. Le deuxième texte, toujours tiré du Concile Vatican II, c'est un autre document de ce concile qui a été produit une année après celui que nous venons de lire. Cette tradition, encore ce concept, qui vient des apôtres, progresse dans l'Église. Donc là, c'est important parce que vous avez ici une autre ligne de crête. La première, c'est celle que j'évoquais en commençant et qui concerne le rapport à l'autorité. Et ici, c'est une autre ligne de crête. Il s'agit de comprendre que le dogme n'apporte rien de neuf à la révélation, mais il y a quand même un progrès. Ici, vous avez le mot. Hein. Cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des réalités aussi bien que des paroles transmises s'accroît tant par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent dans leur cœur que par l'intelligence intérieure des réalités spirituelles qu'ils expérimentent ainsi, que par la prédication de ceux qui, avec la succession dans l'épiscopat, ont reçu un charisme certain de vérité. car l'Église, au cours des siècles, est sans cesse tendue vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'au moment où s'accompliront en elle les paroles de Dieu. » Ici, il faut remarquer la place très nette, très valorisée, laissée à l'assentiment personnel. Le texte commence par parler du développement de la compréhension que nous avons de la révélation, de l'intelligence que nous en avons, à travers l'expérience des fidèles. Les paroles transmises s'accroîtant par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent dans leur cœur. Voilà. Ici, on est dans l'ordre de la foi vécue par les fidèles eux-mêmes. Alors, cela signifie que l'Église catholique possède depuis peu, en réalité, depuis la fin du XIXe siècle, avec des compléments qui ont été apportés par le Concile Vatican II, l'Église catholique possède depuis peu une définition précise du dogme, et cette définition peut être qualifiée de génétique. La manière que le magistère récent a eu de fixer le mot dogme est une manière que l'on peut qualifier de génétique parce que l'accent porte sur les conditions de production du dogme. On verra un peu plus loin une autre définition du dogme qui est d'une toute autre nature, qui n'est pas de nature génétique, c'est celle de Vincent de Lérins, on y viendra plus loin. Alors, en face de cet usage ecclésial et théologique, le mot dogme dans la culture contemporaine de nos contemporains possède une connotation fortement péjorative. Le mot dogme évoque une réponse arbitraire qui ferme la réflexion et qui s'impose avec violence. Le discours dogmatique dans la manière dont il est perçu dans notre culture, le discours dogmatique serait du côté d'une institution forcément écrasante et la liberté serait forcément du côté d'un individu autonome. Donc il y a un énorme malentendu, dès le départ. Alors, vous mesurez à quel point la tâche est compliquée. Il faut vivre un déplacement pour comprendre ce dont il s'agit. On a affaire à un terme polysémique qui n'a été fixé que très récemment. Et en plus de ça, nous sommes baignés dans une culture qui conçoit de manière extrêmement négative tout le champ lexical relatif au dogme, et qui campe un décor, c'est-à-dire du côté de l'institution, c'est la violence et la contrainte, et du côté de l'individu, c'est l'autonomie et la liberté. Décor qui n'est pas adéquat pour comprendre ce dont il s'agit avec le dogme. Alors le but ici, ça va être d'essayer de faire droit à une autre compréhension du mot dogme, et on comprend d'emblée que cette autre compréhension du mot dogme va nécessairement de pair avec une autre compréhension de ce qu'est la vérité. Alors, il va y avoir deux accents principaux. Je vais essayer de rendre visible le plus possible le fait que le dogme est une clé de lecture de notre situation et que l'enjeu du dogme, c'est la vérité au sens d'authenticité du visage de Dieu qui se révèle. Alors ça va s'éclaircir, j'espère, chemin faisant. En tout cas, je signale d'emblée que ces deux accents-là nous placent dans, plus du tout dans le décor précédent, à savoir un face-à-face entre une institution forcément écrasante et un individu qui n'est libre que dans l'autonomie. Et c'est un autre décor, c'est un décor relationnel, où ce qui est en question, c'est la qualité de la relation, c'est-à-dire la perception adéquate de celui qui vient à moi, Dieu, et l'adéquation de ma réponse à l'interpellation divine qui m'est faite, qui m'est adressée. Il s'agit de répondre et de ne pas se tromper de destinataire, de ne pas se tromper d'adresse dans la réponse suscitée par l'interpellation première de Dieu. Et dans la mesure où nous considérons que l'homme ne se comprend bien ne se comprend ultimement que dans ce vis-à-vis avec Dieu qui interpelle, avec Dieu qui appelle, on comprend immédiatement en quoi le dogme constitue une clé de lecture de notre situation. Nous sommes situés en face d'un mystère transcendant qui se préoccupe de nous, qui nous désire, qui nous recherche et qui nous appelle et nous attend. Alors le premier point s'intitule « La révélation ». Je pense que l'introduction suffit à faire comprendre qu'il n'est pas possible d'exposer ce qu'est le dogme pour la théologie en particulier catholique sans expliquer ce en quoi consiste la révélation, ce qu'elle est pour nous. Et je voudrais commencer cette petite exploration concernant la révélation et sa nature avec la question du prophétisme. Et la question est très simple. Quel imaginaire est convoqué dans nos esprits lorsque nous évoquons le prophétisme? Nous parlons d'écrivains inspirés, d'auteurs sacrés, de textes révélés, de prophètes, de prophéties. Cette terminologie-là convoque un imaginaire nécessairement, fait passer devant nos yeux intérieurs des images. Quelles sont ces images? Alors, je pense ne pas trop me tromper en émettant l'hypothèse suivante que pour beaucoup de nos contemporains extérieurs, c'est-à-dire qui ne sont pas familiers de la spiritualité, de la théologie chrétienne, l'imaginaire qui passe devant leurs yeux, qui est convoqué par cette terminologie-là, est celui de la transe. Voilà. C'est-à-dire qu'on imagine le prophète comme un pur transmetteur dépossédé de ses moyens humains, pour livrer entièrement passage à un autre que lui-même, à un autre sujet qui l'instrumentalise entièrement. Alors c'est une vision, pour ceux qui auraient des notions d'anthropologie, c'est une vision, une compréhension naïve de la transe et erronée, puisque cette compréhension de la transe considère ici le corps et le sujet corporel comme un pur instrument, ce qui n'est pas possible. Le corps ne se laisse jamais détacher du sujet qui est ce corps. Mais peu importe ici le caractère naïf de cet imaginaire-là, ce qui compte pour moi, c'est l'idée selon laquelle un écrivain sacré, un prophète, celui qui nous transmet un texte révélé, serait... Et j'insiste sur le conditionnel, parce que évidemment, ce n'est pas la conception biblique du prophète. Donc cet homme-là serait un individu court-circuité et court-circuité par Dieu, qui en ferait un simple canal. Il se trouve que la Bible connaît plusieurs types de prophétisme et elle atteste l'existence d'un prophétisme de transe. Mais à ce prophétisme de transe, elle oppose le prophétisme de l'Alliance. Les grands prophètes du corpus biblique sont des prophètes de l'Alliance. Leur vocation consiste à rappeler les exigences actuelles de l'Alliance scellée avec Dieu et dont Dieu a pris l'initiative. Alors cette mission prophétique prend parfois les chemins de l'extase, mais pas nécessairement. La Bible ne court-circuite pas lorsqu'elle nous met en scène le prophète, le prophète qu'elle valorise au détriment de l'expérience de transe. La Bible ne court-circuite pas l'intermédiaire humain, et le prophète est un intermédiaire au sens fort du terme, même lorsqu'il est en situation d'extase. Cela signifie que la révélation se fait à travers son élaboration, à travers ses schémas de pensée, à travers ses préoccupations et à travers ses limites. Je voudrais continuer cette exploration en considérant d'autres livres du corpus biblique. J'ai commencé par le prophétisme, mais le prophétisme est un genre littéraire biblique parmi d'autres. Et je voudrais explorer maintenant la Torah. La Torah, c'est l'appellation juive. Nous parlons plutôt de Pentateuque, les cinq livres, le livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Et la question se pose ici, comment progresse, y a-t-il, comment progresse le procédé, comment fonctionne le procédé d'écriture au sein de ce corpus de la Torah, du Pentateuque ? On observe dans ce corpus ce qu'on peut appeler une structure de relecture créatrice. Alors c'est un terme un peu jargonnant que je vais essayer d'expliquer. Un des principaux procédés d'écriture qui a présidé à la production du Pentateuque, c'est une relecture créatrice. Alors il faut donner des exemples ici pour rendre la chose sensible. Par exemple, le livre de la Genèse juxtapose deux récits de la création, le chapitre 1 et le chapitre 2. Ils sont juxtaposés. Le livre de l'Exode, au chapitre 14, entretisse, il ne juxtapose pas, mais il entretisse deux récits du passage de la mer du peuple au moment de la sortie d'Égypte, guidée par Moïse. Alors vous avez une version qui vous représente, c'est la version hollywoodienne, qui vous représente les eaux séparées en deux et formant muraille de part et d'autre du peuple juif libéré de l'esclavage d'Égypte par Moïse qui le guide sous l'impulsion divine. Et puis vous avez en même temps entretissé à l'intérieur même du même texte une autre version qui vous représente un vent provoqué par Dieu, vent qui a soufflé toute la nuit durant et a dégagé un guet, a asséché une bande de terre, livrant passage au peuple et lui permettant ainsi d'échapper à Pharaon. Et ce phénomène de relecture, ici, on le trouve donc dans des microstructures, dans des unités à l'intérieur d'un livre. Alors, par juxtaposition, Genèse 1, Genèse 2, ou par entretissage en Exode 14. Mais c'est bien un phénomène de relecture. C'est-à-dire que le même événement est repris, réinterprété, théologisé, approché d'une manière différente. Et ce processus de relecture créatrice joue aussi sur de grandes unités. Par exemple, de livre à livre. Ici, j'ai essayé de vous montrer le fonctionnement de ce processus à l'intérieur d'un livre. Mais il se trouve que le même processus intervient de livre à livre. Le Deutéronome est largement une relecture du livre de l'Exode. Il n'est pas que cela, mais il est aussi cela. Et vous trouvez le même phénomène dans des livres qui appartiennent à un autre genre littéraire, le genre historique par exemple. Les deux livres des Chroniques sont une relecture des deux livres des Rois. Il se trouve que ce phénomène de relecture créatrice, en plus, est énoncé par la Bible elle-même comme étant un processus ouvert. Parce que au chapitre 18 du Deutéronome, Moïse annonce au peuple que Dieu enverra un prophète comme lui qu'il faudra aussi écouter. Ce qui ouvre ce processus de relecture. Si nous nous tournons maintenant vers le Nouveau Testament, on observe le même phénomène. C'est-à-dire l'événement Jésus-Christ est approché par quatre évangiles qui ne sont pas parfaitement harmonisables. C'est-à-dire nous avons ici quatre approches différentes qui théologisent différemment l'événement Jésus-Christ, qui en rendent compte différemment, avec des enjeux différents, des perspectives différentes, une sensibilité différente. Alors ça signifie que la Bible, petite parenthèse, ce phénomène de relecture créatrice ouvre à l'intérieur même du corpus biblique un espace de débat. À l'intérieur même du corpus biblique. Un des débats les plus fameux et très âprement développé tout au long du corpus biblique, c'est le débat qui porte sur la situation du juste souffrant. La Bible se questionne et débat en interne au sujet de cette question-là. L'homme qui est dans la peine, l'homme qui est dans le malheur, est-il nécessairement un pécheur châtié par Dieu ? Et vous avez à l'intérieur du corpus biblique lui-même des réponses divergentes opposée. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est hors sujet, mais si cette question vous intéresse, le livre biblique qui se saisit le mieux de cette question, c'est le livre de Job. Je referme cette parenthèse pour tirer les conséquences de cette structure que nous avons observée. Alors, ce sont des conséquences que l'on peut dire judéo-chrétiennes. Elles sont partagées par le judaïsme et par le christianisme. Elles sont considérables, aussi bien pour le judaïsme que pour le christianisme. La Bible doit nécessairement être interprétée. Son processus d'élaboration est lui-même une interprétation, une relecture. Deuxième conséquence, il y a un progrès de la révélation. Et troisième conséquence, un passage de la Bible est à interpréter en fonction du tout. Alors en théologie chrétienne, on a une expression technique qui désigne cette nécessité d'interpréter la partie en fonction du tout. On appelle ça l'analogie de la foi. Je voudrais continuer cette exploration biblique en posant la question suivante. Y a-t-il des dogmes dans la Bible ? Et il faut répondre à cette question la chose suivante. On trouve dans la Bible ce qu'on pourrait appeler des matrices du dogme. Alors pour éclairer ce que j'appelle matrice du dogme, je voudrais que nous lisions ensemble un texte qui est relativement long, mais je crois que ça vaut la peine parce que ce texte est central pour le judaïsme et donc nécessairement aussi pour nous, pour le christianisme. Je le lis. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui, pardon, je ne sais pas si vous êtes familier avec les abréviations, DT ça veut dire Deutéronome. Hein. Donc c'est le chapitre 6 du livre du Deutéronome. Nous allons lire du verset 4 au verset 25. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, tu les attacheras à ta main comme un signe sur ton front, à ta main comme un signe sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés. Lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. Ne suivez pas d'autres dieux d'entre les dieux des nations qui vous entourent, car c'est un Dieu jaloux que le Seigneur ton Dieu qui est au milieu de toi. La colère du Seigneur ton Dieu s'enflammerait contre toi et il te ferait disparaître de la face de la terre. Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez mis à l'épreuve à Massa. Massa, c'est un épisode qui a eu lieu au cours de l'exode des 40 ans passés par le peuple dans le désert. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, ses instructions et ses lois qu'il t'a prescrites, et tu feras ce qui est juste et bon aux yeux du Seigneur, afin d'être heureux et de prendre possession de l'heureux pays dont le Seigneur a juré à tes pères qu'il en chasserait tous tes ennemis devant toi. Ainsi l'a dit le Seigneur. Le texte est terrible. Hein?
Oui.
Le texte est terrible. Hein? Lorsque demain ton fils te demandera « Qu'est-ce donc que ces instructions, ces lois et ces coutumes que le Seigneur notre Dieu vous a prescrites ?» Tu diras à ton fils, à ce passage, le début de ce texte, c'est le chemin Israël, hein? C'est la prière quotidienne du juif religieux. Et ici, ce passage, lorsque demain ton fils te demandera « Qu'est-ce donc ces instructions et ces lois ?» C'est le rite de Pessah, le rite de la Pâque juive. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Le Seigneur a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, Pharaon et toute sa maison. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères et pour nous le donner. Et le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois afin de craindre le Seigneur notre Dieu, d'être toujours heureux et de vivre comme il nous l'a accordé jusqu'à présent. Telle sera notre justice, garder et mettre en pratique tous ses commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Alors, ce passage contient une affirmation théologique sur l'unicité de Dieu, un rappel historique de l'action de Dieu. Il a libéré le peuple de l'esclavage d'Égypte. Il rappelle la dimension d'alliance que revêt cette intervention de Dieu dans l'histoire. En libérant le peuple de la servitude d'Égypte, Dieu confirme que ce peuple est son peuple. Il confirme cette situation d'alliance. Et du fait de cette situation d'alliance, le texte développe une dimension, les dimensions orthopraxiques et morales. Orthopraxique, c'est-à-dire l'agir droit, très large, y compris le rite. Et morale. Et les dimensions identitaires qui sont impliquées dans cette relation à Dieu. Ça signifie que Dieu est un Dieu personnel qui veut, qui agit, que ce Dieu-là rassemble un peuple et qu'il rassemble son peuple. Donc ce qui est très intéressant, c'est que dans cette matrice, vous avez un ensemble extrêmement riche, théologique, moral, rituel, identitaire. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve cette même structure matricielle du dogme. Alors, je vous ai mis en exemple un autre texte, assez long lui aussi. C'est le premier discours de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre, alors, debout avec les onze, éleva la voix et leur adressa ces mots. « Hommes de Judée, vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » Donc on est juste après la Pentecôte. Hein. Et Pierre s'adresse au peuple qui est là. « Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. » Alors là, il s'agit des autres apôtres et disciples qui viennent de recevoir. Donc la Pentecôte vient d'avoir lieu, ils viennent de recevoir le don de l'Esprit Saint. Ils sont sortis de leur cachette, ils se mettent à parler. Et le peuple qui est présent entend les apôtres, chacun dans sa langue. Et donc, ce phénomène extraordinaire provoque une stupeur. Et Pierre explique le phénomène. « Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, ce n'est d'ailleurs que la troisième heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète, il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur. » Donc, renvoie à la première alliance, hein, au prophète. « Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Alors là, il va y avoir la bascule du rappel des textes de l'ancienne alliance à la nouvelle annonce que va faire l'apôtre Pierre. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même, cet homme qui avait été livré sous le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car David, alors de nouveau, retour à la première alliance. David, c'est les psaumes, le frère vous le rappelait tout à l'heure. David dit à son sujet, « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé ? Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et ne laisseras pas ton saint voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. » Donc ça, ce sont les paroles attribuées à David dans les psaumes. Pierre reprend la parole. « Frère, il est permis de vous le dire en toute assurance, le patriarche David est mort et a été enseveli. » Sous-entendu, ces paroles ne s'appliquaient pas à lui. Et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète, de nouveau, et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès, donc c'est à lui que s'applique la prophétie, et dans la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez, car David, lui, de nouveau retour, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, » toujours une citation du psaume, « jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. » que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus, donc de nouveau les paroles prophétiques de David s'appliquent à Jésus, ce Jésus que vous, vous avez crucifié. Et d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait, sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La fraction du pain, c'est une manière de désigner l'Eucharistie ou la messe. On trouve la même structure que dans le livre du Deutéronome, c'est-à-dire le rappel des promesses de Dieu, le rappel des prophéties, le rappel de ce que Dieu a fait dans l'histoire, il a ressuscité Jésus de Nazareth, une orthopraxie qui découle de ces rappels, que devons-nous faire? Le baptême. L'ensemble sert un propos théologique, Jésus-Christ est Seigneur, il est l'alliance nouvelle et éternelle. Tout le genre humain, ça joignit environ 3000 âmes, nous dit le texte, hein, tout le genre humain est appelé à recevoir sa vie éternelle par le baptême et l'Eucharistie. Dieu rassemble son peuple et maintenant, ce n'est plus seulement celui des 12 tribus d'Israël, mais celui des multitudes sauvées. Vous voyez, il y a transcription de la même structure, libération d'Égypte, passage de la mer, identité, orthopraxie, rassemblement du peuple élu, et ici, passage à travers la mort, identité d'un peuple nouveau qui n'est plus simplement en dimension des 12 tribus d'Israël, mais qui devient universelle. Et c'est cette matrice à partir de laquelle le dogme va se développer, ce que nous appelons le kérigme. Cette matrice. Le kérigme, ça vient d'un mot grec, d'un verbe grec qui signifie proclamer, annoncer. Le kérigme, c'est la proclamation du choc initial. Dieu a ressuscité ce Jésus que vous aviez crucifié. Le centre de ce kérigme, de cette matrice, est occupé par le Christ. Il était mort, il est vivant. Et il nous conduit au Père. Alors de cette exploration biblique, nous en avons terminé avec elle. Nous retenons deux ensembles de données. Premier ensemble de données qui sont communes au premier, à la première alliance et à la seconde alliance, à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Premier ensemble de données. Dieu est un Dieu, le Dieu biblique est un Dieu personnel, c'est un Dieu d'alliance, et donc il suscite une réponse religieuse qui nécessairement est collective. Elle est aussi individuelle, hein. Quand je dis qu'elle est collective, ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'elle appelle aussi une réponse intime, bien sûr. C'est moi qui crois. Mais cette réponse ne peut pas rester, demeurer seulement individuelle, elle est nécessairement collective parce que, précisément, Dieu est un Dieu d'alliance qui suscite la communion, qui suscite un rassemblement. Vous savez que le mot « église » est un mot grec qui signifie « assemblée ». Hein. Et le deuxième ensemble de données est le suivant. Nous avons une structure de développement de la révélation. Alors là, on est en plein dans notre sujet. Hein. Notre sujet, c'est le développement du dogme catholique. Il y a développement du dogme catholique parce qu'il y a déjà dans la Bible une structure de développement de la révélation. Qu'il y ait un développement du dogme catholique répond au fait qu'il y a une structure du développement de la révélation. Et cette structure repose sur des données matricielles qui sont très riches, hein, qui sont théologiques, historiques, culturelles, rituelles, identitaires. Ces données, il y a donc des données matricielles, il y a une réponse de la part de l'individu et du peuple. Il y a une relecture créatrice de cette expérience de dialogue, hein, de cette expérience de réponse à une interpellation inscrite dans l'histoire, hein, dans l'histoire d'un peuple. Donc il y a une relecture créatrice qui développe la révélation, hein, à l'intérieur d'un corpus et entre les livres bibliques eux-mêmes. Il y a une dynamique d'accomplissement et d'approfondissement qui préside à ce travail de relecture créatrice. Alors là, on l'a vu, Pour nous, catholiques, le sommet de cette dynamique d'approfondissement et d'accomplissement, c'est ce qu'on appelle la typologie, à savoir le Christ nouveau Moïse. On n'est plus simplement libéré de l'esclavage d'Égypte, mais on est libéré de la mort et du péché. Ça ne concerne plus seulement le peuple des 12 tribus, mais ça concerne tout le genre humain. Voyez. Alors, un deuxième, toujours dans ce volet sur la révélation, je voudrais maintenant examiner avec vous la manière dont le magistère récent comprend la révélation. Alors, par magistère récent, j'entends le document Dei Verbum, produit par le Concile Vatican II en 1965. Dans les documents qui vous ont été communiqués, où il y a encore une énorme coquille, malgré... Bon, j'ai relu ça plusieurs fois, pourtant il y en a encore une énorme qui s'est glissée. Mais je pense que vous la trouverez par vous-même. Vous avez in extenso les paragraphes 11 et 12 qui sont centraux, mais à l'écran, je vous en ai reproduit seulement quelques extraits qui suffisent pour notre propos. Nous allons les lire ensemble. Donc c'est une présentation par le magistère récent. Je vous rappelle, le magistère, c'est l'Église en tant qu'elle a reçu de Dieu la mission d'enseigner. Donc nous avons ici une présentation par le magistère récent d'une compréhension catholique de ce qu'est la révélation. Les réalités divinement révélées qui sont contenues, petite parenthèse, je vous demande d'avoir présent à l'esprit ce que nous avons dit en commençant sur la transe et l'intermédiaire humain. D'accord ? La valorisation par la Bible qui est très au fait de l'existence d'un prophétisme de transe, mais qui lui tourne le dos pour valoriser précisément le prophète de l'Alliance qui est un intermédiaire humain au sens fort, c'est-à-dire un homme qui transmet le message de Dieu à partir de ses propres élaborations culturelles. D'accord ? Les réalités divinement révélées qui sont contenues dans les Saintes Écritures et y sont exposées par écrit ont été consignées sous le souffle de l'Esprit-Saint. En effet, les livres entiers, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, la Sainte Mère Église, de par la foi apostolique, les tient pour sacrés et canoniques, parce que rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ils ont Dieu pour auteur, et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Donc ici, vous avez une présentation très verticale, très descendante de la révélation, où on attribue l'auteur des livres sacrés est Dieu lui-même. Mais pour composer les livres sacrés, Dieu a choisi des hommes et il a eu recours à leur service dans le plein usage de leurs facultés et de leurs forces propres, de façon à ce que lui-même, agissant en eux et par eux, il transmisse par écrit en vrais auteurs. Il y a donc deux auteurs, Dieu et l'écrivain sacré, qui est en pleine possession de ses moyens et qui fait un travail d'auteur, qui compose, qui filme ses métaphores, qui va chercher dans un fond culturel commun, y compris païen. Vous avez des importations païennes dans la Bible. Par exemple, les kéroubim, c'est une importation païenne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une désignation, une manière de désigner une certaine réalité angélique. C'est une réalité païenne, les kéroubim. D'accord ? Où en sommes-nous ? Dans le plein usage de leurs facultés et de leurs forces propres, de façon à ce que lui-même, agissant en eux et par eux, il transmise par écrit en vrais auteurs tout ce que lui-même voulait et rien d'autre que cela. Mais puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des... Alors là, on a sauté tout un passage, hein, et on passe directement au paragraphe 12. Mais puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, à la manière des hommes. Donc en aucun cas, l'écrivain sacré n'est un pur canal. L'interprète de la Sainte Écriture, donc nous, pour percevoir ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, doit rechercher attentivement ce que les hagiographes, c'est-à-dire les écrivains sacrés, ont réellement eu l'intention de signifier et ce qu'il a plu à Dieu de faire savoir par leurs paroles. Et comment faire cela? Comment s'assurer de l'intention des hagiographes? Eh bien, le texte poursuit en nous invitant à une véritable immersion culturelle dans leur culture. Pour découvrir l'intention des hagiographes, il faut, entre autres choses, prendre aussi en considération les genres littéraires. En effet, la vérité est proposée, exprimée de façon chaque fois différente dans les textes, diversement historiques, prophétiques, poétiques, ou relevant d'autres genres d'expression. Il faut par conséquent qu'on interprète, nous, cherche le sens que l'hagiographe, l'écrivain sacré, en des circonstances déterminées, c'est-à-dire dans un contexte culturel, en fonction des conditions de son temps et de sa culture, a voulu exprimer et a réellement exprimé en ayant recours au genre littéraire utilisé de son temps, etc., etc. Alors dans ce texte, il y a une oscillation entre deux compréhensions de la révélation, descendante et ascendante. Descendante, les livres saints ont Dieu pour auteur, et ascendante, Dieu s'est servi d'homme en vrais auteurs. En entretissant ces deux compréhensions, ces deux schémas, le Concile cherche visiblement à nous indiquer que ces deux schémas-là ne s'excluent pas. Alors ça signifie que il y a un différentiel entre la vérité divine exprimée dans les livres saints et les idées des écrivains sacrés. Il ne s'agit pas de mettre sous la validation vérité divinement révélée ce qui relève du champ culturel de l'écrivain sacré. Je donne un exemple. Pour l'écrivain sacré, il ne fait aucun doute que c'est le soleil qui tourne autour de nous. Il ne fait aucun doute que le monde a un bout, une limite, un terme. Il vit dans un autre monde que le nôtre. Pour ceux qui ont fait un petit peu de philosophie des sciences, j'ai fait allusion à un livre très célèbre d'Alexandre Coiré, un titre très éloquent qui est le suivant, « Du monde clos à l'univers infini ». L'écrivain, nous sommes dans un univers infini, l'écrivain sacré, l'écrivain biblique est dans un monde clos dont il voit le terme. Il voit la voûte céleste, la nuit, le dôme de la création. Tout ceci n'est pas vérité révélée. Il y a un différentiel ici. Ce que suggère le texte, ce qu'affirme même le texte, c'est que la lecture et l'interprétation de l'écriture est une opération qui comporte trois acteurs. Dieu, l'écrivain sacré et nous. C'est une lecture qui se fait à trois. Et cette lecture n'est jamais achevée. Il y a l'intention révélatrice de Dieu, l'écrivain sacré qui se laisse interpeller par cette intention divine et qui se laisse interpeller, rejoindre à partir de ce qu'il est, à partir de ses schémas culturels. Et il y a nous qui reconnaissons cette expérience originelle comme étant pour nous normative. Mais la reconnaître comme normative, ça veut dire que nous nous inscrivons dans cette expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons poser au texte biblique des questions que l'écrivain sacré lui-même n'a pas imaginées. Nous lisons l'écriture en l'actualisant, en l'interprétant. Et interpréter l'écriture signifie entrer dans une expérience spirituelle dont nous reconnaissons qu'elle est décrite de manière normative par le produit biblique lui-même. Méditer l'écriture dans la communauté qui célèbre cette écriture-là, c'est rentrer dans cette expérience de dialogue avec un Dieu qui appelle et qui fait alliance avec nous. Et ici, c'est, si l'on peut dire, ça forme un triangle, hein, c'est le triangle herméneutique, le triangle interprétatif de l'écriture, ici tiré du côté de l'expérience. L'écriture parle non pas seulement dans sa matérialité, dans sa littéralité, mais elle parle aussi au titre de l'expérience qu'elle ouvre. Alors c'est ici que nous avons le concept de tradition. C'est-à-dire que le concept de tradition, là je saute un passage parce que nous allons manquer de temps, le concept de tradition, c'est le lien indissociable entre l'inspiration divine, le texte sacré et la communauté croyante qui célèbre. Voilà, c'est ce triangle-là. Alors, ce lien indissociable, ce qu'il faut comprendre avec ce concept-là de tradition, s'explicite de manière assez simple lorsqu'on considère l'origine historique du Nouveau Testament. Lorsqu'on regarde comment le Nouveau Testament a été produit, nous n'avons pas la chronologie suivante, texte révélé, à savoir les évangiles, puis Église. Mais nous avons un cercle constitutif des deux pôles. Les évangiles ont été rédigés par une communauté croyante, par des communautés croyantes. Les évangiles ont été rédigés par la jeune Église en cours de constitution. Et les évangiles, à leur tour, engendrent la communauté ecclésiale. Et donc ces deux pôles font cercle et sont constitutifs l'un de l'autre. D'accord ? On n'a pas cette chronologie linéaire, texte révélé puis communauté, qui se reconnaît dans le texte et à partir du texte, mais on a une réalité qui fait cercle. C'est-à-dire que l'écrit lui-même est produit par la tradition. Il est une tradition. Je dis les choses, la même chose différemment. Jésus n'a rien écrit. Nous n'avons que des témoignages à son sujet, qui nous sont transmis, tradition, tradere en italien, ça veut dire transmettre, hein, qui nous sont transmis par des disciples. Afin que nous nous inscrivions dans la même démarche croyante qu'eux, c'est-à-dire dans la même relation qui est la leur avec ce Jésus qu'ils appellent Christ. Alors, en guise de conclusion de cette exploration biblique, qui était un peu le gros morceau, je pense que pour le reste on pourra aller plus vite, j'attire votre attention sur le petit numéro 108 du Catéchisme de l'Église catholique que j'ai reproduit sur les documents qui vous ont été distribués. Il est en page 2, je crois, voilà, page 2 tout en bas. Alors maintenant, cet énoncé qui pourrait surprendre des personnes qui ne sont pas familières du catholicisme, normalement, doit pouvoir être compris avec ce que je vous ai dit. La foi chrétienne, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe. Alors là, il y a un jeu de mots sur parole et verbe, hein, et c'est le même mot en grec, c'est logos. Non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant, c'est-à-dire le Christ, le Verbe de Dieu, le Christ. Il s'agit ici d'une citation de Saint Bernard. Alors c'est intéressant parce que, je crois, si j'ai bien compris, cet après-midi, vous allez avoir une conférence sur le rôle de la spiritualité monastique dans la théologie, l'importance de la spiritualité monastique dans la théologie, non, c'est ça ?
Plus sur les différents courants monastiques.
Hein. D'accord.
Il y aura des questions là-dessus, mais sur ce qu'est le monachisme.
Oui, oui.
En tout cas, là, vous avez une... Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une affirmation vraiment essentielle. Hein, et cette affirmation, le catéchisme de l'Église catholique l'a fait au mieux en citant un moine, et pas n'importe lequel, Saint Bernard de Clairvaux. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une petite pause pour éventuellement faire un tour de questions avant de poursuivre ? Est-ce qu'on continue dans notre élan ? Comment est-ce que vous voyez les choses ?
5 minutes contre 20.
Est-ce que vous avez besoin que je revienne sur ce qu'on a fait ? On continue ou...
Une petite articulation, dans mon livre, pas complètement clair pour moi, c'est le passage à l'universalité où on sort du strict tribut d'Israël.
Oui.
Et comment est-ce que ce passage devient et s'adresse inclut l'universalité du genre humain ?
Alors ça, c'est tributaire de l'invitation faite par le Christ lui-même, qui donne ordre à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, carrément d'annoncer l'Évangile à la création tout entière, dans l'Évangile selon saint Marc, par exemple. Alors il y a des péripéties, c'est-à-dire que, on le verra un peu plus loin, la manière de comprendre cette universalisation de l'alliance d'Israël, hein, ça a été un choc pour les apôtres qui sont tous juifs. Hein, donc ça a été un choc. Et ça a été une question. Par exemple, la question technique qui s'est posée, mais on va y venir un peu plus tard, c'est christianiser, évangéliser les païens implique-t-il de les faire d'abord passer par le judaïsme ? Par exemple, faut-il imposer la circoncision aux mâles ? Faut-il imposer la cacheroute, les prescriptions alimentaires religieuses juives ? Ou bien le païen peut-il passer directement au christianisme sans passer par la case judaïsme ? Donc ça n'a pas été une question simple. Mais l'impulsion vient du Christ lui-même. L'élargissement de l'alliance d'Israël au monde entier vient du Christ lui-même. Alors, le deuxième volet est intitulé l'unicité du Christ. Ici, le propos. Pardon. J'avais pas vu.
Elle est relative, puisque vous y êtes revenu plusieurs fois, sur l'interprétation.
Oui.
Est-ce qu'il est écrit ou est-ce qu'il y a une invitation dans les textes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, à l'interprétation, à l'actualisation?
Mais Jésus ne fait que ça quand il prêche.
Oui.
Et l'apôtre Paul aussi. On vous a dit, je vous dis. Non, c'est propre au judéo-christianisme. Parce que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'Ancien Testament fait la même chose.
La réactualisation sans arrêt. C'est
mais une réactualisation.
Les prophètes s'interprètent les uns les autres tout le temps.
Mais qui réinterprète, oui. Cette réactualisation. De toute façon, actualiser, ça ne peut pas se faire sans interprétation. Ce n'est pas possible. Actualiser signifie qu'on va déplacer. Hein. On va changer de référent, on va changer de coordonnées. Exemple. On a changé d'univers depuis l'époque biblique.
Il y a un mode d'interprétation assez différent chez les chrétiens que chez les juifs, par exemple.
On est très très proche. On a la même conception de la révélation. Alors là, moi je ne suis pas expert hein, en ce qui concerne l'islam, mais il faudrait demander à un islamologue. Mais je pense que l'islam a une conception de la révélation très différente. C'est-à-dire que chez nous, et quand je dis chez nous, c'est juifs et chrétiens, où nous sommes extrêmement proches. Là où ce qui va faire la différence, c'est que la clé interprétative pour le monde juif, ça va être essentiellement la sortie d'Égypte et le don de la loi qui est consécutif. Alors que pour nous, la clé interprétative, c'est la résurrection du Christ et le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc là, ici, il y a les clés de lecture ne sont pas les mêmes, mais la conception de la révélation est la même, à savoir, jamais l'intermédiaire humain n'est court-circuité, et donc toujours la révélation doit être interprétée. Et c'est ainsi que se développe la littérature spirituelle et éthologique, aussi bien juive que chrétienne. La littérature rabbinique est une interprétation actualisante du texte biblique. Après, il y a des questions techniques de méthode herméneutique qui sont différentes. Par exemple, il y a l'utilisation du mot crochet dans l'interprétation rabbinique qui n'existe plus chez nous, mais qui existe chez saint Paul. Par exemple, on trouve un passage et on veut l'interpréter, on se sert d'un mot présent dans ce passage qui fait crochet avec exactement le même mot dans un passage très différent, qui peut même être différent sur le plan du genre littéraire, mais il se trouve que dans cet autre passage où on trouve le même mot, il y a l'idée que l'on cherchait, et le rapprochement par mot crochet permet d'interpréter le premier passage. Bon, ça c'est une technique typiquement rabbinique que l'on trouve encore chez saint Paul, et qui est tarie chez nous, qui n'est plus exploitée. Donc, sur le plan de la technicité herméneutique, vous trouvez des différences, mais qui sont plus culturelles que religieuses, parce que l'interprétation juive d'aujourd'hui, elle ne procède pas par mot crochet, ou peu. Est-ce que j'ai été clair sur cette question?
Vous dites par vos crochets.
Mot crochet. C'est marabout, bout de ficelle, selle de chat, cheval de course, course à pied, c'est le même principe. Oui. Oui, il est important. Alors, il y a deux manières de le clarifier. La première, c'est de revenir au schéma que je vous ai présenté, le schéma triangulaire, qui est celui-ci. Voilà. Normatif, ça veut dire rentrer dans ce triangle-là. Il y a une autre manière de le dire, c'est que ce qui nous est proposé, c'est indissociablement, dans le même élan, une vision de Dieu, une vision du monde, une vision de soi et une vision des relations avec tout cet ensemble-là, entre les partenaires de cet ensemble-là. Et ce que propose la Bible, c'est cette vision très riche. Je peux donner un exemple peut-être plus concret, plus spirituel et peut-être plus proche de nous, du coup. Dieu a libéré, pour le juif, Dieu a libéré de l'esclavage d'Égypte, il l'a fait jadis, il le fait maintenant. Le rappeler, c'est célébrer ce que Dieu fait maintenant. Alors, de quelle Égypte suis-je l'esclave ? Je le sais. Peut-être que mon voisin ne le sait pas. Mais Dieu libère maintenant. Jésus a apaisé la tempête. Il apaise mes tempêtes maintenant.
Oui.
Ok ?
Donc, ce qui est normatif, c'est ce qui...
C'est l'expérience relationnelle.
L'expérience
relationnelle.
Vérité saisie dans l'instant. Alors, relationnelle dans...
Alors, oui, ou vérité, c'est ce que j'essayais d'indiquer dès le départ, est à comprendre beaucoup plus sous la catégorie de la relation que sur la catégorie chosiste d'un résultat. Vous voyez ? On n'est pas dans la production d'un résultat ou d'un calcul, on est dans une vérité qui est d'ordre relationnel, donc une manière de la traduire, c'est authenticité. Il s'agit du visage de Dieu. On peut donner un exemple historique. Je décline la même réponse sur plusieurs aspects. La grande bagarre d'Irénée de Lyon au IIe siècle vis-à-vis des gnostiques porte sur la bonté de la matière. Les gnostiques disent que la matière est une création mauvaise qui a été créée par un sous-dieu ou un anti-dieu ou un contre-dieu, bon, peu importe. Il y a des tas de systèmes gnostiques. Ils attribuent la matière non pas à Dieu, qui est bon, mais à un principe mauvais. La matière est mauvaise. Et Irénée se bat contre les gnostiques parce que ce qui est en jeu, c'est et la manière de lire l'Écriture, qui nous dit que Dieu vit que tout cela était bon dans le livre de la Genèse. Donc la question, c'est de savoir comment j'interprète le texte. Mais aussi comment je vois Dieu à travers la création. C'est-à-dire que Irénée, décidément, veut pouvoir occuper une posture dans ce monde qui est d'émerveillement. Et non pas du tout un regard de dépréciation vis-à-vis de l'ordre matériel. Et donc ce qui s'affronte ici, c'est pas simplement des contenus philosophiques, des dogmes en un sens très étroit de résultats contraignants, même si le dogme est aussi cela. Mais avant d'être cela, il procède, il est dérivé d'une expérience fondatrice. Et avec Irénée, on voit très bien que l'enjeu, c'est la posture, beaucoup plus encore que les contenus. C'est-à-dire que Irénée n'est pas contre les gnostiques simplement au titre de principes philosophiques qui sont antidualistes chez Irénée, mais parce qu'il n'habite pas le monde de la même manière qu'eux. Il n'habite pas son corps de la même manière qu'eux. Il ne regarde pas le Christ de la même manière qu'eux. L'incarnation du Verbe chez les gnostiques est une déchéance. Pour Irénée, c'est une bonne nouvelle. C'est une visitation. Ça marche ? Alors, l'unicité du Christ. Petit préambule. La question du Christ, pour vous qui suis-je, qu'on trouve chez Matthieu, Marc et Luc, est la question essentielle. On n'est pas chrétien parce qu'on célèbre le culte le dimanche au lieu du samedi ou du vendredi. On n'est pas chrétien parce qu'on mange du poisson le vendredi et qu'on peut manger du porc. On n'est pas chrétien parce qu'on fait l'aumône, qu'on dit bonjour à son voisin et que de manière générale, on essaie d'être poli, bien élevé, honnête et gentil. Pour vous qui suis-je, c'est la question fondamentale. Là, ici, je relativise l'orthopraxie. Hein. Elle est importante, mais seulement dans son ordre. Alors, c'est la question essentielle que Jésus lui-même nous pose. Alors, pareil, il y a une actualisation. Il l'a posée à ses apôtres. Il me la pose. Pour toi, David, qui suis-je ? Et on ne répond pas à cette question. Alors, ça, c'est très important. Alors, je vous ai dit que chez les catholiques eux-mêmes sont obligés de vivre un déplacement. Les étudiants en théologie catholique, quand ils entrent en première année de théologie dogmatique, ils vivent un clash. Hein. Alors, par exemple, ici, on ne répond pas à cette question, pour vous qui suis-je, en récitant par cœur le credo ou le catéchisme de l'Église catholique. On ne répond pas à cette question en répétant simplement les paroles de l'apôtre Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que lorsque Pierre dit ça, donc Pierre répond immédiatement à cette question pour vous qui suis-je, tu es le Messie. Mais dans la bouche de Pierre, cette affirmation tu es le Messie pèse très lourd. Il a tout quitté. Il a quitté son métier, il a quitté sa famille, il a quitté son village et il s'est mis au banc de la société juive. Ou en tout cas, il s'est mis en situation très problématique, très conflictuelle. D'accord ? C'est-à-dire que cette affirmation-là, tu es le Messie, n'est pas une affirmation purement informative, c'est un choix de vie. Il a mis toute sa personne en jeu dans cette réponse. Et donc on ne répond pas à la question « Pour vous, qui suis-je » sans se mettre en jeu soi-même. Et du coup, je crois qu'on peut finir ce préambule en disant ceci, qui est très simple, hein. On est chrétien parce que le Christ est entré dans notre vie. Hein. Ça, c'était le préambule. Maintenant, nous passons au cœur du sujet de ce volet intitulé « L'unicité du Christ ». Le cœur du sujet est assez simple. La thèse que je vais essayer de vous rendre sensible, c'est que on trouve, vous voyez, je fonctionne beaucoup en parallélisme de structure. Eh bien, vous allez avoir un parallélisme ici entre la préoccupation des évangiles et du Nouveau Testament général vis-à-vis du Christ et la préoccupation du dogme vis-à-vis du Christ, c'est la même, à savoir sertir, promouvoir, attirer l'attention sur son unicité, sur le fait qu'avec Jésus-Christ, nous avons affaire à quelqu'un qu'on ne peut rabattre sur rien de semblable. D'accord ? Alors ça, c'est la thèse d'ensemble. Alors, pour accéder à cette thèse d'ensemble, je pose la question qui est suivante. Comment se fait-il qu'il y ait une figure cohérente, le Christ, qui se dégage de quatre évangiles, alors que ces quatre évangiles procèdent d'approches diversifiées qui ne sont pas parfaitement harmonisables? Alors, il y avait un certain nombre de choses que j'aurais voulu voir en détail avec vous, mais nous allons manquer de temps, donc je vais aller beaucoup plus vite, et ça va être peut-être un peu péremptoire, j'en suis désolé, mais disons ceci, il faut distinguer les christologies d'un côté et le Christ d'un autre côté, ce n'est pas la même chose. Et il y a des christologies à l'œuvre dans les évangiles, des christologies diversifiées. Si on a le temps plus tard, au moment des questions, j'expliciterai ce point. Alors ça signifie que les quatre évangiles procèdent du Christ, ne prétendent pas le saisir, en faire le tour, mais prétendent l'indiquer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce processus, alors en termes techniques, on appelle ça un processus déictique qui désigne. Les évangiles ont une qualité déictique. Ils ne disent pas le tout de la personne du Christ, ils sont des attestations qui dérivent de l'expérience faite par les premiers disciples de cette personne originale et unique. Donc ils en dérivent et surtout, ils indiquent la permanence de cette expérience. C'est pourquoi les évangiles sont célébrés dans le culte ou à la messe. C'est pourquoi ils sont lus de manière cyclique. Chaque année, on recommence le cycle de lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec comme point d'orgue, évidemment, pour nous catholiques et pour nous chrétiens, la lecture du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que il s'agit, dans cette lecture proclamée, célébrante des évangiles, de faire cette expérience réussie d'indication, grâce aux évangiles, de la présence actuelle du Christ dans la communauté. Si nous répétons des récits que nous connaissons par cœur déjà, la tempête apaisée, la multiplication des pains, etc., 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 c'est parce que nous faisons l'expérience depuis l'origine que cette célébration, que cette proclamation liturgique priante de ces témoignages-là sont efficaces à manifester à la communauté rassemblée la présence actuelle de ce même Jésus-Christ dont il est question. D'accord ? Je dis la même chose autrement, en reprenant une terminologie employée précédemment, là, au cours de cet entretien. La proclamation liturgique est déjà l'actualisation de cette parole, et déjà son interprétation. Puisqu'il y a le postulat de base que c'est maintenant. Que ce dont on fait le récit qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est maintenant. Rien que ce postulat est déjà une interprétation, provoque déjà un déplacement du texte et provoque chez l'auditeur un déplacement de sa personne, un déplacement de sa compréhension des choses. Et toujours faute de temps, je suis en train de sélectionner ce sur quoi je vais mettre l'accent. Bon, là je vais sauter un certain nombre de choses. On va passer directement à la fondation du cadre de la question. Oui, parce qu'il nous reste 20 minutes. Hein.
Oui, bon, en réalité, comme on a du temps d'ici l'office de Sexte, donc voilà, n'hésitez pas quand même à prendre peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude, dans la mesure où on est là, on n'a pas de train à prendre juste après, donc voilà.
Ok.
Voilà, les éditeurs sont là pour ça aussi, donc voilà, on est dans un cadre, on va dire, de contraintes temporelles qui est différente.
Bon, voilà, super, donc, super. C'est très très dangereux de dire ça à un conférencier,
ouais,
parce qu'on prend le risque que du coup il s'étale,
J'ai dit des choses très dangereuses, c'est le problème.
Bon, je vais essayer quand même de garder un propos bordé. Mais du coup, grâce à cette invitation, je me permets un petit complément avant de sauter au point suivant. Oui, allez, dites-moi.
On a trois quarts d'heure.
Trois quarts d'heure. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on ait un échange.
Ah oui.
Donc, pour compléter, avant de passer au point suivant, ce que je viens de dire sur le caractère déictique, hein, j'espère ne pas vous effrayer avec ces mots barbares, hein, c'est-à-dire qui désignent tout simplement, hein, du Nouveau Testament. Je complète ce point en disant ceci. L'émergence, alors évidemment à partir d'une lecture croyante, hein, et célébrante, l'émergence d'une figure cohérente, le Christ, à partir de cette... Les anciens parlaient de l'évangile tétramorphe, à partir de ce quadruple accès. Hein, l'émergence de cette figure cohérente signifie pour nous que le Christ est porteur en lui-même de sa rationalité. Je m'explique. C'est lui qui nous dit comment nous devons le comprendre, et non pas nous qui devons lui imposer nos catégories et nos concepts pour l'expliciter. Conséquence en théologie dogmatique, quand il va s'agir d'exprimer, d'expliciter le mystère qu'il est, il va y avoir un travail très radical, très fondamental sur les concepts eux-mêmes pour les modifier en profondeur. C'est-à-dire on va bien plus qu'on ne va chercher à faire entrer le Christ dans les catégories préexistantes, on va modifier les catégories disponibles dans le patrimoine philosophique, hein, parfois, ou même dans le patrimoine biblique, on va modifier cette catégorie en les approchant du Christ, et à son contact, elles vont subir une transformation. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça un peu dans le détail à certains moments. Okay. En tout cas, l'émergence, l'expérience croyante d'une cohérence dans la lecture et dans ce qu'elle manifeste, et elle manifeste donc pour nous, dans la lecture croyante, la présence actuelle, hein, de ce Christ attesté par les premiers disciples, impose comme conséquence que nous recevions de cette personne, le Christ, la rationalité pour le dire, pour l'exprimer. D'accord ? Alors, nous passons au point suivant, toujours dans ce volet, l'unicité du Christ. Ce deuxième point s'appelle la fondation du cadre de la christologie. Je pense que j'ai sauté beaucoup beaucoup de choses, mais c'est pas grave, c'est très bien. Alors, au deuxième, ici nous allons voir quelques grandes étapes de la fixation du dogme christologique, c'est-à-dire des dogmes qui sont relatifs à la personne du Christ. Donc nous allons, alors on va faire ça à grands traits, hein, ça va être assez grossier, et ça va nous faire traverser les premières hérésies. Au deuxième et au troisième siècle apparaissent deux hérésies, l'adoptionnisme et le modalisme, qui ont pour objectif de répondre à une difficulté extrêmement simple. Si les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu, les chrétiens ont deux dieux. Ce qui est problématique. Ils ne sont plus monothéistes. Or, les chrétiens sont héritiers du monothéisme juif. Donc ici, il y a un problème. La tentative de résolution ici emploie recours à deux solutions complémentaires, ou plutôt deux solutions possibles. L'adoptionnisme consiste à dire que Jésus n'est pas vraiment Dieu, il l'est devenu. Par exemple, sa sainteté de vie fait que Dieu l'a adopté comme son fils, d'où le nom adoptionnisme. mais il n'était pas Dieu de toute éternité. En d'autres termes, il n'était pas Dieu comme Dieu. Et le modalisme, une voie plus subtile, consiste à dire que Jésus est un mode d'apparaître de l'unique Dieu. Ici, vous voyez à l'œuvre des tentatives de résolution logique, rationnelle, du mystère unique du Christ. D'accord ? Au IVe siècle, alors il ne va pas y avoir de concile pour répondre à ces hérésies parce que, à ce moment-là de l'histoire, l'Église n'est pas en mesure de réunir un concile. Il n'y a pas eu encore la paix constantinienne, le christianisme n'est pas encore religion d'État, les chrétiens vivent des épisodes de persécution sanglante, ils ne sont pas en mesure de réunir un concile. Au IVe siècle apparaît la crise arienne. C'est toujours la même crise qui se répète mais qui se décline. C'est toujours la même tentative de ramener le Christ à du connu, de dissoudre son unicité dans de l'explicable à partir de nos catégories disponibles. Alors Arius est prêtre à Alexandrie et il provoque des troubles avec ses homélies au sujet du Fils de Dieu. Il professe un monothéisme strict, c'est-à-dire que pour lui, le Fils, donc le Christ, et l'Esprit sont des créatures. Alors des créatures suréminentes, plus éminentes que nous, mais des créatures tout de même. Alors ici, on va commencer à voir le détail, le travail sur les concepts. Parce que Arius a deux motivations. Il a d'abord une motivation théologico-spirituelle, à savoir, les évangiles nous représentent un Christ qui a faim, qui est fatigué, qui dort, qui se met en colère, qui pleure. Ce sont des choses qui paraissent à Arius indignes d'un Dieu. C'est-à-dire, ce sont des passions, des états d'âme, et ça lui paraît indigne de Dieu. Donc ça, c'est sa motivation théologico-spirituelle. Donc, on ne peut pas attribuer à ce Jésus-Christ la nature divine, la qualité divine, du fait de sa passibilité, de ses états d'âme. Et la motivation philosophique est intéressante parce que c'est elle qui va nous mettre de plein pied avec le travail dogmatique conciliaire sur les termes et sur les concepts. Arius soutient que le Fils ne peut pas être inengendré, c'est-à-dire éternel, de toute éternité, car alors il y aurait deux dieux, toujours le même problème, maintenir un monothéisme strict. Donc si le Fils ne peut pas être inengendré parce que ainsi il serait coéternel et donc étant coéternel ça ferait deux dieux, ça signifie qu'il est donc engendré, le Fils. Et donc il est engendré par le Père, d'où son statut de créature. Okay ? Et pour Arius, il a été engendré par la volonté du Père et pas par la substance du Père. Pourquoi ? Parce qu'Arius se représente la substance divine de manière très matérialiste, comme un gâteau qu'on pourrait découper en parts. Et il est inenvisageable d'imaginer que la substance divine puisse se partager, puisse se morceler. Et donc, de quoi le Fils est-il issu ? À partir de quoi est-il créé ? Non de la substance divine, non de l'essence divine, mais de la volonté du Père. Parce que la division de la substance divine est impensable. Cette hérésie va provoquer le concile de Nicée en 325. Alors comment le concile de Nicée va-t-il procéder pour se sortir de l'impasse dans laquelle Arius a placé le concept d'engendrement ? Alors le concile de Nicée va d'abord affirmer que Jésus-Christ est consubstantiel au Père. Il a la même substance que le Père. Il est inengendré, il est coéternel, il est donc Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Et il est engendré selon la substance du Père, selon l'essence divine. Mais pour pouvoir affirmer cela, le concile de Nicée va produire un concept inédit d'engendrement. Et pour produire ce concept inédit d'engendrement, il va jouer sur deux registres, sur deux images, deux analogies. L'analogie du Fils est l'analogie du Verbe, c'est-à-dire l'analogie de la procréation, le Fils, et l'analogie de la pensée, le Verbe. Alors, l'être humain engendre, procrée à partir de sa substance, mais il y a une division. D'accord ? Dieu engendre le Fils à partir de sa substance, il n'y a pas de division. La pensée humaine, le Verbe humain, produit sans division les idées, les pensées, mais ce qu'il produit n'est pas subsistant, c'est dans ma pensée. Le Père produit le Verbe en lui-même, mais il produit un Verbe subsistant. Et donc c'est en corrigeant ce que chacune des deux analogies, la procréation humaine et la pensée humaine, a de trop humain, de trop terrestre, c'est en corrigeant l'une par l'autre ces deux analogies qu'on aboutit à un concept d'engendrement inédit. Et c'est ainsi que l'on barre la route à Arius, et l'objectif n'est pas d'abord philosophique, mais il est d'abord, encore une fois, de sauvegarder, de promouvoir l'unicité du Christ. Oui, nous avons affaire ici à un mystère, le mystère de la Trinité, qui n'est pas un impensable, mais qui est à recevoir pour penser. Il n'est pas impensable puisqu'il donne à penser, en revanche, il n'est pas une réalité que l'on peut construire, que l'on peut produire. Il nous met délibérément en position de récipiendaire. D'accord ? Alors, si vous voyez à l'œuvre ce processus de modification radicale des concepts. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Le concept le plus célèbre qui a subi une modification vraiment profonde et dont nous sommes profondément héritiers dans notre culture occidentale, c'est le concept de personne, qui vient de là, qui vient de la théologie trinitaire. Personne, à l'origine, ça désigne le masque de l'acteur de théâtre. Aujourd'hui, pour nous, personne, ça désigne une individualité consciente, libre, revêtue d'une dignité inaliénable. Vous percevez le chemin parcouru. Ce chemin parcouru est un héritage de la théologie trinitaire. C'est que la théologie trinitaire a eu besoin du concept de personne, mais elle lui a fait subir le même traitement que le co-concept d'engendrement. Est-ce que j'ai été clair ou pas ? Ça va ? C'est pas facile ? Ça va ? Le but, c'est pas de rentrer dans le détail des querelles entre Arius et les pères du Concile de Nicée. Le but, c'est de montrer comment on a travaillé. On est allé chercher consubstantiel, c'est un mot philosophique, hein, vous ne l'avez pas dans l'écriture. Le Concile de Nicée dit le Fils est consubstantiel au Père. Donc on est allé chercher un terme philosophique. On dit il est engendré. Alors on va chercher des termes. Alors là, ce n'est pas un terme d'abord philosophique, c'est un terme de la réalité humaine. Hein. On va chercher des termes dans l'expérience humaine et dans le patrimoine intellectuel, mais on leur fait subir une transformation très profonde pour servir, alors j'allais dire un objet, mais entendez-moi bien, un objet de pensée, hein, je n'objectif pas le Christ, pour servir une personne, un objet unique. Ça va ? Alors, on pourrait le montrer ainsi de suite, pour aller plus vite, on va sauter tous les autres conciles parce qu'on n'a pas le temps, puis ça nous ferait rentrer dans le détail des querelles christologiques et ce n'est pas le sujet. J'attire juste votre attention sur le concile de Chalcédoine, qui est très important parce que le concile de Chalcédoine a fixé le cadre de toute christologie recevable. Alors là, tous les mots comptent. Le concile de Chalcédoine fixe un cadre, il ne donne pas de réponse. De toutes les christologies, ça veut dire qu'il y a plusieurs christologies possibles, y compris dans le catholicisme. Donc, entre théologiens catholiques, vous pouvez avoir des christologies diversifiées et qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Ça n'est rien de moins qu'un décalque des quatre évangiles. Ils ne sont pas harmonisables. Okay.